Décryptage, Marie Cazadebé.
50 ans après la mission Apollo 11 et ce pas de géant pour l'humanité, la Lune est à nouveau un objectif. La première sonde israélienne s'est écrasée lors de son alunissage la semaine dernière, mais le Premier ministre Benjamin Netanyahou préfère retenir le progrès que représente le projet pour son pays.
Un nouveau bond pour l'humanité, un pas de géant pour Israël.
Quelques jours plus tôt, Donald Trump annonçait une accélération du calendrier de la NASA. Il souhaite revoir marcher des Américains sur la Lune dès 2024. Il faut dire que la Chine et la Russie ont aussi affiché leurs objectifs pour les années à venir. Alors pourquoi ce regain d'intérêt pour la Lune? Quels sont les intérêts scientifiques et politiques de cette conquête? Et qui en sont les acteurs? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Xavier Pascaud.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes le directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous êtes plus particulièrement chargé des affaires spatiales et nous sommes en ligne avec Isabelle Sourbès-Verger. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe, spécialiste des politiques spatiales et directrice de recherche au CNRS. La planète Mars semblait depuis quelques années l'objectif à atteindre et puis la Lune est redevenue une priorité. Pour quelles raisons, Xavier Pascaud ?
Alors, la Lune est redevenue une priorité ces dernières années, alors aux États-Unis notamment, mais pas seulement. Alors, est-ce qu'on peut parler de priorité pour les autres pays ? C'est un peu moins clair. Mais essentiellement parce que le programme spatial civil américain a traversé une période de doute importante. À la suite, finalement, depuis Apollo, depuis la fin d'Apollo, depuis les difficultés subies par la navette spatiale américaine aussi, les accidents qu'on a connus. Et puis, dans la perspective de l'abandon de la station spatiale, mais il y avait comme une sorte de trou d'air, si je veux dire. Alors pour l'espace, c'est pas tout à fait approprié, mais enfin, et la NASA notamment, en tant qu'institution, en tant qu'agence spatiale fédérale civile, s'est trouvée un peu mise en cause, un peu en manque d'objectifs finalement, et la période, le président précédent, Barack Obama, a été le président qui a permis la montée de nouveaux acteurs, d'acteurs privés notamment, qui ont des visions, qui ont des capacités, qui se sont posés un peu en concurrent de la NASA. Et donc tout ça a conduit la NASA à essayer de repenser un grand programme fédérateur, en quelque sorte, et l'administration Trump, qui évidemment a pris la suite de celle de Barack Obama, a décidé de remettre le programme spatial dans un autre axe, en utilisant finalement cet objectif.
Mais pourquoi la Lune plutôt que Mars, je l'évoquais tout à l'heure, sachant qu'en plus les États-Unis sont déjà allés sur la Lune en 1969 pour la première fois.
Tout à fait, c'est ce que disait Barack Obama, on l'a déjà fait donc on ne va pas le refaire. Alors en même temps Mars, effectivement c'était l'objectif ultime que se donnait aussi la présidence précédente, mais Mars on le sait est un objectif très très lointain, très compliqué, notamment pour y emmener des hommes, c'est assez dangereux et aujourd'hui on ne sait pas faire ça. Mmh. Et donc c'est précisément la NASA qui investissait dans la recherche pour aller sur Mars était en manque en même temps d'étapes intermédiaires et la Lune se trouve comme étant finalement la seule étape intermédiaire.
Isabelle sur Verger, est-ce qu'on vise la Lune pour mieux atteindre Mars pour d'autres pays que les États-Unis notamment ?
Je crois qu'on vise la Lune d'abord pour démontrer ses capacités technologiques. Si vous comparez par exemple l'Inde et la Chine, la Chine étant une puissance spatiale, je dirais peut-être aujourd'hui plus mature et en tout cas ayant un budget spatial plus élevé que l'Inde, l'Inde a essayé malgré tout et a réussi d'ailleurs à envoyer une sonde autour de Mars, ce que la Chine n'a pas encore réussi à faire. En revanche, ce que la Chine est en train de réussir sur la Lune, c'est une vraie démonstration de compétences technologiques, en posant pour la deuxième fois donc un rover sur la Lune, en choisissant de le faire sur la face cachée et en proposant de ramener des échantillons lors de la prochaine mission. Donc si vous voulez, la Lune, je pense que c'est un terrain d'exercice tout à fait privilégié. C'est quand même le seul satellite naturel de la Terre. Donc c'est celui qui est le plus facile d'accès et celui sur lequel on peut le mieux apprendre à maîtriser des technologies d'exploration, même si et ça, effectivement, les ingénieurs comme les scientifiques en sont bien d'accord, cet apprentissage ne pourra pas être directement transposé sur Mars.
Xavier Pascaud, alors finalement la Lune comme terrain d'expérimentation, terrain plus facile à atteindre, quels sont les objectifs alors scientifiques d'une mission sur la Lune, telle qu'on les envisage en ce moment, alors, je ne sais pas si on peut faire un comparatif, entre cette sonde israélienne qui attendait donc de se poser et finalement qui a échoué, ou alors les astronautes que les États-Unis aimeraient envoyer sur la Lune, quel est l'intérêt en fait d'y aller ?
pour l'instant, les objectifs scientifiques sont assez modestes, même s'ils sont souvent affichés. La sonde dont vous parlez, d'ailleurs, avait très peu d'équipements scientifiques à bord. Hein. C'était vraiment pour le, comme le disait Isabelle, pour le, je dirais, le mouvement, le fait d'avoir posé une sonde sur la Lune. Il faut bien voir qu'effectivement, les États-Unis, s'ils veulent revenir sur la Lune, c'est d'abord pour des raisons politiques, internes, je l'ai dit, externes aussi, puisque la Chine, l'Inde et d'autres puissances, et notamment la Chine, vu des États-Unis, prétend finalement avoir aujourd'hui une compétence spatiale et prétend un statut de puissance spatiale, bien les États-Unis immédiatement se vivent en concurrence, donc la Lune devient cet objectif. Alors ensuite, il faut justifier effectivement des dépenses qui vont de toute façon être importantes. Alors on explique qu'on va s'y installer, qu'on va y faire des expériences scientifiques, en gros qu'on va essayer de voir si on peut tirer des ressources, par exemple, de la Lune. Bon, c'est pas très clair. Aujourd'hui, les scientifiques ont quand même quelques idées. Il y a un débat sur le fait qu'on pourrait éventuellement peut-être récupérer des minéraux ou de l'hélium-3 ou de l'hydrogène, des choses comme ça. Mais on voit bien que c'est pas le fond du problème. Le fond du problème est d'abord une dimension politique à ce programme. Mmh. Et puis, il y a aussi, d'une certaine manière, la nécessité pour les États-Unis, enfin tel qu'ils la vivent, de reprendre un peu la conduite des opérations, d'organiser un énorme programme fédérateur qui permette aux uns et aux autres, alors là ce sera à la carte finalement, aux pays, aux agences spatiales, voire aux acteurs privés, de s'y brancher, si j'ose dire, de s'y accrocher, et finalement d'installer comme ça dans la durée une sorte de prééminence. Donc on voit bien qu'il y a une concurrence stratégique, une volonté de prééminence stratégique, et on voit bien que l'acteur en face désignée, en tout cas par les États-Unis, c'est la Chine.
Isabelle Sourbès, Verger, on comprend qu'il y a une sacrée compétition sur la Lune. Qu'est-ce que cela apporte d'être capable d'envoyer des sondes et même des hommes sur la Lune? Quel est l'intérêt stratégique finalement à cette conquête et à être le premier ou le meilleur dans ce domaine?
Alors, je suis pas tout à fait sûre qu'il y ait une sacrée compétition. Je pense que c'est vraiment une façon de présenter les choses et de vouloir voir les choses très largement structurées par la communauté spatiale américaine, parce qu'elle rejoue Apollo, parce qu'elle rejoue effectivement le grand moment où la NASA, et Xavier le disait tout à l'heure, le grand moment où la NASA a eu derrière elle un budget extrêmement important, des moyens quasi illimités, un projet national et un soutien politique sans faille. Donc, il y a ce rêve et cette crédibilisation de la Chine comme un concurrent potentiel. Mais en fait, aujourd'hui, la Chine, elle apprend à faire ce que même l'Union soviétique avait réussi avec les programmes Luna au début des années 70. Donc on n'est pas du tout dans une compétition. Et quant à la sonde Beresheet, en fait, c'est un tout petit programme qui était dans le cadre du Google Prize qui proposait à des acteurs privés et indépendants d'essayer de réussir l'exploit de poser quelque chose sur la Lune. Et cette sonde, tout ce qu'elle devait faire, c'était un saut de puce et prendre quelques photos. Et puis, bon, elle a un réflecteur laser qui fait que finalement, ça ne sera pas complètement inutile qu'elle fasse un débris de plus sur la Lune.
Alors, plutôt que parler de compétition, on peut dire que d'autres pays tentent de rattraper un retard scientifique ou...
C'est ça. Moi, je dirais que des pays tentent d'acquérir de la compétence, tout simplement. C'est-à-dire que la Chine, c'est vraiment ça, son leitmotiv. Et c'est pour ça qu'elle progresse finalement de façon très régulière avec un effet cumulatif qu'on commence à voir, c'est d'acquérir toutes les compétences que les plus grandes puissances spatiales ont eues. Donc les États-Unis l'ont fait, l'Union soviétique l'a fait, maintenant c'est la Chine qui montre qu'elle en est capable à son tour. L'Inde va bien sûr relancer une deuxième mission, elle en a déjà fait une, et le Japon fait aussi quand même partie des acteurs du spatial, sauf que du spatial lunaire, je dirais, sauf que lui vit un peu comme les a d'ailleurs, son programme en coopération internationale et en particulier, par exemple, chacun mettant en avant ses avantages. Vous avez un projet entre Toyota et l'agence spatiale japonaise pour faire un véhicule tout à fait particulier, mais qui s'inscrirait dans le cadre de la coopération internationale sur la Lune.
Pour l'heure, en tout cas, les États-Unis sont le seul pays à avoir envoyé des astronautes sur la Lune, 12 en tout, au cours de 6 missions entre 1969 et 1972. La première mission, on en a parlé, c'était Apollo 11, et c'était il y a tout juste 50 ans. Les mots historiques, évidemment, de Neil Armstrong. Les États-Unis sont des pionniers. Hein. Cette prouesse n'a jamais encore été égalée. Xavier Pascaud, je lisais en préparant cette émission que le constructeur américain Boeing avait beaucoup de retard dans la construction d'une fusée pour envoyer à nouveau des astronautes sur la Lune. Alors pourquoi les États-Unis de Donald Trump vont rencontrer des difficultés à retourner sur la Lune alors que les États-Unis de Kennedy l'ont fait il y a 50 ans ? On sait faire. Les États-Unis savent faire ça.
Ah oui, les États-Unis savent faire ça. Il faut qu'ils sachent le refaire, parce qu'ils l'ont déjà fait, effectivement, dans des conditions techniques beaucoup moins élaborées qu'aujourd'hui, bien sûr, mais ça nécessite néanmoins un effort considérable. C'était quelques pourcents du PNB américain qui était investi dans l'espace. On n'en est pas là aujourd'hui, c'est-à-dire que cet effort qui a pris presque une décennie pendant les années 60, avant d'atterrir le premier astronaute sur la Lune en 69, n'est pas reproduit aujourd'hui à l'identique. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que cet effort lunaire qui apparaît aujourd'hui aux États-Unis, c'est un effort qui est très synchrone, j'allais dire, avec la présidence Trump. Mmh. Et la présidence Obama n'avait pas comme objectif, en tout cas encore moins 2024, pour poser un homme sur la Lune. Et le lanceur qui a été décidé, dont la construction a été décidée, auquel vous faisiez référence, le lanceur de Boeing, qu'on appelle le SLS, qui est cette énorme fusée qui doit emmener ses astronautes vers la Lune ou vers une station autour de la Lune, a été décidé essentiellement pour permettre la reconversion industrielle de secteurs entiers qui étaient mis à mal par l'abandon de la navette spatiale, par exemple. Et donc, mais on se projetait dans une stratégie très incrémentale, comme on dit aujourd'hui, qui devait aboutir des décennies plus tard à Mars. Donc on n'avait pas ce même sens de l'urgence. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la pression, si j'ose dire, s'est accrue, notamment sur Boeing et sur la NASA au passage, pour faire un lanceur au moment même où des acteurs privés eux-mêmes font des lanceurs de taille un peu similaire, un peu moins gros, mais quand même très important, et qui du coup relance aussi le débat sur le rôle de la NASA, sur son efficacité. Donc on est dans un contexte un petit peu compliqué pour la NASA, où à la fois le pouvoir politique soutient à nouveau la NASA, mais le jour d'après, questionne en fait sa compétence et sa compétitivité.
Donald Trump soutient la NASA, mais la presse aussi. On parlait de 2028, et puis la semaine dernière, finalement, il dit « je veux des hommes sur la Lune en 2024 ». Il y a évidemment des fins électorales derrière ce message. En tout cas, pour atteindre leur objectif, les États-Unis, vous l'avez déjà évoqué, n'excluent pas le recours donc à des sociétés privées. Mike Pence, le secrétaire d'État américain.
Si l'industrie américaine peut fournir des services commerciaux essentiels sans aide du gouvernement, nous les achèterons. Si les fusées privées sont la seule façon de ramener des astronautes américains sur la Lune dans 5 ans, alors ce sera des fusées privées.
Isabelle Surbès-Verger, c'est la grande différence avec 1969, la mission Apollo. Un État n'a plus les moyens de renvoyer des hommes sur Mars sans aide extérieure.
D'envoyer sur la Lune, oui.
Sur la Lune, pardon.
Non, c'est pas grave. Non, mais effectivement, je pense pas que c'est pas qu'il ait plus de moyens, c'est qu'il ne veut plus mettre les moyens. Jamais Trump ne serait prêt à engager l'équivalent des dépenses qui ont été les dépenses Apollo.
Parce que ça ne passerait pas auprès des électeurs, auprès des Américains.
Lui-même n'en a pas le désir. Tout ce qu'il veut faire, c'est un coup médiatique. Et finalement, c'est quand même assez ironique de voir qu'il avance de 4 ans comme ça, d'un seul coup, d'un trait de crayon, parce que ça l'arrange pour des raisons électorales. Alors que même les partenaires internationaux de ce programme n'ont pas été prévenus et qu'eux-mêmes ont un programme qui était calé sur 2018. Et l'Agence spatiale européenne, par exemple, elle n'est pas du tout prête, elle n'est pas du tout prête pour avancer de 4 ans le programme. Donc ça fait quand même vraiment une impression un peu désordre, moi je dirais. C'est une manière, une fois de plus, de faire un coup d'éclat avec sans doute de la part de Trump, eh bien, une dénonciation de l'incapacité des agences gouvernementales si ça ne marche pas et pas beaucoup de responsabilisation, je dirais, dans ces changements de cap, alors que, et c'est là qu'effectivement la Chine est bien plus cohérente, effectivement, les Chinois de leur côté, ils ont un programme par étapes, ils ne sont pas en train de se précipiter. S'il faut glisser de 6 mois, s'il faut glisser d'un an, ils glissent de 6 mois ou un an, simplement ils savent exactement ce qu'ils veulent faire et à ce titre là, je dirais que d'une certaine manière, ils sont déjà potentiellement vainqueurs par rapport à cette espèce de course en avant très étrange des États-Unis en ce moment.
Alors c'est sûr que la Chine n'a pas tout à fait les mêmes échéances électorales que les États-Unis.
Exactement.
Xavier Pascaud, tout à l'heure, vous parliez du but aussi des États-Unis de redonner un sens à la NASA face à une concurrence privée. Là, en l'occurrence, finalement, la NASA montre bien qu'elle n'est pas capable, en tout cas dans les délais qu'on lui accorde, à travailler toute seule et qu'elle a besoin de ses acteurs privés.
Alors oui, d'une certaine manière. Alors comme le disait Isabelle, le glissement de 2024 met ça sous la loupe encore plus, enfin le montre encore plus.
Et donc finalement, ça fait quand même aussi ressurgir ces acteurs-là comme voilà, incontournables.
Absolument. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ces acteurs ont été mis en selle, si j'ose dire, par l'administration précédente, mais aussi d'une certaine manière par les administrations précédentes, par le fait même qu'aux États-Unis, il y a eu, vis-à-vis du programme civil, une sorte de désamour en réalité, depuis les grandes épopées de la guerre froide, j'allais dire, et le sentiment que tout ça devait un petit peu peut-être se dégonfler. Il y avait toute cette compétition politique pour dire que l'administration washingtonienne et la NASA en est une, en quelque sorte, prenait trop de place, devait se réduire, etc., et devait être plus efficace. Et donc, on a vu, par exemple, SpaceX ou Blue Origin, la société du patron d'Amazon, Jeff Bezos, monter, j'allais dire, être créé, puis monter, sous les administrations précédentes, avec beaucoup d'argent public, en réalité, hein, parce qu'ils ont été soutenus, y compris par la NASA, qui a, par exemple, délégué au secteur privé le transport d'astronautes, d'abord de fret et bientôt d'astronautes vers la station spatiale. Une station spatiale qui, elle-même, arrive en fin de vie, dont ne sait que faire la NASA, en réalité. Donc, les États-Unis s'en désengagent, mais ils s'en sont désengagés dès l'administration Obama sans avoir de but nouveau. Mmh. Et c'était un peu une première pour l'agence spatiale. Et donc, effectivement, cette idée de reprendre la Lune comme une espèce d'objectif lointain, c'est aussi une manière de se réorganiser. Mais bien évidemment, il y a beaucoup de choses à... Le chantier est en pleine construction.
Et au-delà de ces partenariats publics-privés donc envisagés par les États-Unis, on voit apparaître des projets entièrement privés, là, comme celui de la sonde israélienne. Est-ce que les objectifs des missions lunaires privées sont très très différentes de celles soutenues par des États? On parlait de la Chine, de l'Inde. On n'y va pas pour la même raison?
Je pense que là, pour le coup, effectivement, assimiler la sonde Bereshit et bon, en l'occurrence son échec à l'échec du programme spatial israélien, c'est un non-sens, parce que là, pour le coup, on était dans le cadre d'une course effectivement liée à un prix qui était le Google Prize, lancé en 2007, qui a d'ailleurs suscité une trentaine de candidatures, et puis au bout du compte, il n'y a eu plus que quelques sociétés. Puis cette société israélienne, financée par un milliardaire israélien, a joué un petit peu le jeu et même a continué avec ses propres fonds à faire cette sonde. L'idée, effectivement, pour Israël aurait été de bénéficier d'un succès en mettant en avant le caractère israélien du programme. Mais en même temps, l'échec n'est pas l'échec d'Israël dans l'espace. Mmh. Donc, on est dans un domaine extrêmement différent d'un programme spatial national.
Mais au-delà de cette sonde, il y a des projets assez fous de voyages touristiques sur la Lune. Enfin là, on s'éloigne encore plus des projets pseudo-scientifiques dont on parlait tout à l'heure.
Ah oui, tout à fait. Là, on est carrément dans une espèce de profusion de projets, donc de start-up. Alors, c'est un peu ce qu'on appelle le New Space aux États-Unis, où certains développent par exemple des constellations de satellites pour regarder la Terre, d'autres des constellations de satellites pour faire des télécommunications. Ils pensent qu'il y a un marché. Et puis d'autres envisagent des marchés extrêmement... Alors des marchés, je mets ça entre guillemets, prospectifs, par exemple d'exploitation des ressources extraterrestres. Alors d'abord, on ne sait même pas si on a le droit de le faire. En fait, le droit international l'interdirait plutôt. Et puis, c'est évidemment totalement hypothétique en termes de business plan. D'ailleurs, en général, ces sociétés vivent et meurent à un rythme très très élevé. Mais on a une espèce... On essaye de tirer profit, on va dire, dans l'industrie, dans un certain type d'industrie, notamment souvent lié à l'Internet, d'ailleurs, de cette espèce d'attrait pour le gouvernement de faire rentrer un peu plus de secteur privé dans un programme spatial dont on se dit que, de toute façon, il sera soutenu par des budgets publics et donc il y aura des grosses parts de gâteau à se partager.
Pour conclure, Xavier Pascaud, quelle est la prochaine étape vers la Lune, une nouvelle sonde avant évidemment un premier homme?
Oui, de toute façon, on va voir se multiplier. Enfin, il y a un certain nombre de programmes qui sont imaginés pour faire de l'exploration automatique de la Lune, éventuellement. Ce qu'on voit aujourd'hui, enfin ce qui devrait se profiler comme étape clé, en tout cas dans le dispositif américain, peut-être international, c'est une station qui serait en orbite autour de la Lune. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse transporter des astronautes jusqu'à cette station et que de cette station, ils aillent sur la surface, ils y reviennent. Tout ça reste très très hypothétique encore.
Merci beaucoup Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, et merci Isabelle Sourbès-Verger d'avoir été au téléphone avec nous, directrice de recherche au CNRS. Éléonore Krenik, Charles Mamère, Charles Barré et Claude Baptista m'ont aidé à préparer cette émission. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.